Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, bien, nous aurons l'immense plaisir de retrouver la jeune Nusayba El-Hlou, une slameuse, elle est également chanteuse, pleine de talent et pleine d'espoir, un univers particulier qu'elle partagera avec nous, notamment lors de la grande soirée du slam francophone qui se déroulera à partir du 27 mars, notamment à Casablanca, Rabat ou encore Marrakech. Et puis nous parlerons cinéma également avec Jilali Farhati, un des pionniers du cinéma sur notre continent, pas moins de 10 films à son actif, une signature cinématographique unique qui sera avec nous, notamment pour nous parler de son nouveau projet qui est en train de voir le jour, ça sera dans quelques instants. Finirons en beauté cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique avec la sortie littéraire de la semaine avec Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, le nouveau roman de Marc-Alexandre Obambé. Il est slameur, chanteur mais également romancier et il nous régale avec ce dernier né, un roman cette fois-ci. Et comme promis tout à l'heure, place tout de suite à Jilali Farhati, un des pionniers du cinéma sur notre continent, véritable institution, école vivante, mémoire en détention, poupée de roseau, brèche dans le mur et l'inoubliable La plage des enfants perdus, mémoire en détention. Jilali Farhati, pas moins de 10 films à son actif, de la poésie, il voit l'image comme l'anagramme de magie. D'ailleurs, il est en train de préparer, de peaufiner son tout dernier film, La guerre des 6 mois. Il est avec nous et il nous parle avant tout de cinéma et de son amour pour cet art.
Je vais vous dire, j'ai à mon actif, alors qu'il est 10 longs métrages, j'en ai écrit 9 et il n'y en a qu'un seul que j'ai réalisé, c'est Poupée de roseau de Farid Abliyazid, c'est elle qui avait écrit le scénario. Donc, pour vous dire que je suis très... C'est pas de l'égoïsme, c'est pas un retranchement sur soi, c'est tout simplement, il y a un monde, chacun a son propre monde, chacun a ses propres réactions à toutes les sensibilités qui nous entourent. Chacun réagit au chaud à sa façon, au froid à sa manière. Donc, il est évident que écrire avec quelqu'un d'autre me laisse, disons, un peu réfractaire. Donc, c'est pour cette raison que j'essaie de rester dans mon monde. Au moins, je n'en voudrais qu'à moi-même pour avoir épousé telle ou telle idée plutôt qu'une autre. Donc, voilà, mais c'est loin d'être de l'égoïsme. C'est tout simplement une façon de me protéger et de protéger l'autre parce que je suis très, très près de mes sensations. Je veux dire, la sensibilité est une pour tout un chacun.
Et qu'est-ce que vous préférez, écrire des scénarios ou réaliser ?
C'est-à-dire que ça va tellement de soi que j'ai... l'écriture du scénario ou l'écriture à la réalisation sont tout à fait les mêmes démarches. La réflexion est là, qui vous accompagne à toutes les étapes de la fabrication d'un film. Moi, je pense que quand on écrit un scénario, c'est vraiment quelque chose de sacré, on n'y touche pas et tout ça. Mais quand arrive la réalisation, on se surprend en train de modifier certaines choses, en train d'altérer certaines écritures, de tels dialogues et tout ça. Et donc, du coup, on remarque que finalement, c'est la réalisation qui devient sacrée au détriment du scénario. Et puis, il y a l'étape troisième et finale, c'est le montage qui est implacable. Le montage, à mon avis, c'est la réalisation définitive et qui est le film définitif.
Et d'ailleurs, il y a une très belle actualité qui est en train de voir le jour, de prendre forme enfin, avec un nouveau projet cinématographique, La guerre des six mois. Donc, vous l'avez réalisé, vous avez également écrit le scénario. Je pense que c'est la première fois que vous allez en parler dans les médias. Est-ce que vous pouvez un peu résumer le film et pourquoi avoir choisi cette thématique qui vous tient particulièrement à cœur ?
Bah, c'est une question un peu piège là, parce qu'en fait j'ai du mal à parler d'une idée de film, c'est-à-dire c'est enlever toute envie de voir aux autres, de voir le film. C'est parce qu'ils savent, ils connaissent l'histoire, alors qu'en fait c'est une histoire se découvre à travers les images, elle se découvre pas à travers les dires. Bon, c'est évident qu'on nous demande, quand on présente un projet, on nous demande un synopsis, une note d'intention, et où on se vide, on fait des aveux, on raconte tout, alors que la réalisation c'est tout. Donc, succinctement, c'est des lycéens dans les années 80, l'année du bac, qui un garçon et une fille de confessions différentes, qui se trouvent piégés par l'amour de l'un pour l'autre, et donc. C'est la société, la réaction des parents, des uns et des autres. Et puis bon, et ça, là, je suis en train de tout révéler. Non, mais j'ai du mal à dévoiler, mais non, je préfère qu'on me devine plutôt que de me lire.
En tout cas, moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, et c'est vrai que c'est un film qui change beaucoup de votre filmographie, même si bien sûr on retrouve cette signature, cet ADN dès les premières images. Et puis il y a cet acteur formidable, donc Salman Farq, avec lequel qui a le premier un des rôles principaux du film. Et voilà, ce jeune acteur qu'on a découvert sur petit écran et qui s'est lancé dans le cinéma. Et comment ça s'est passé avec lui, le travail?
Il faut dire aussi que, bon, je ne vais pas parler seulement de Salman Farq, qui est d'une grande sensibilité. Il est tout le monde sauf lui-même. Donc, c'est ça l'avantage et l'aveu principal que pouvait faire un acteur, c'est être tout le monde et sauf lui-même. Je parlerai de tous ceux qui ont contribué, parce qu'un acteur ne peut pas être un personnage sans les personnages qui lui font face. Donc, c'est une part de vérité qui les définit, sont là pour se la partager. Donc, je parlerai donc de Saad Moffar, Karim Fethi, de Yousra Bouhmouch, Abdelrahim Tamimi, Younes Bachkour, il y a
Jalil Latoumsani aussi,
qui a le rôle principal, disons. Ils sont tous principaux. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, un générique, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a ce film qui va bientôt, en tout cas qui est en post-prod et qui va bientôt, Inch'Allah, être terminé. Et est-ce que vous pensez déjà à la suite ? Est-ce qu'il y a des projets qui peut-être verront le jour ?
Vous savez, c'est comme un jardinier, hein. On recueille des fruits et puis tout en regardant les autres donner les premiers bourgeons pour de futurs fruits. Donc c'est comme ça que ça se passe dans la créativité, dans la création. Bon, évidemment, il y a plein d'idées, ça se bouscule, on ne sait pas qui donner la priorité. C'est un amoncellement de choses, c'est plutôt un amoncellement d'émotions. Je ne pense pas à personnages ni quoi que ce soit, c'est plutôt les atmosphères qui m'intéressent dans un premier lieu.
Merci beaucoup, Jilali Farhati, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, bonne chance, bon courage, ma fille.
Merci, papa.
Voilà. Salut. Bonjour à toute l'équipe. Merci.
Et après avoir parlé cinéma avec le réalisateur, le cinéaste Jalil Farhati, tout de suite, nous continuons de parler cinéma dans l'Afrique en culture avec cette fois-ci Alain Kassanda pour Coconut Head Generation. Le réalisateur franco-congolais a remporté, je le rappelle, le Grand Prix du prestigieux Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou à Paris. Son documentaire raconte comment un ciné-club à l'université nigériane d'Ibadan se transforme en lieu de rassemblement, nourrissant les rêves de liberté d'étudiants dans la rue. Alors le titre vient d'une expression nigériane qui désigne quelqu'un qui a la tête creuse et qui est borné. Un clin d'œil à cette génération de jeunes nigérians qui s'est approprié cette expression pour revendiquer leur côté têtu qu'ils mettent au service d'autrui et de la société pour un avenir meilleur.
So you get to, we tend to get questions from people. Oh, after school, what are you going to do? You're just going to become a teacher. And things like this discourage you. You get discouraged by people's comments. And then you think about the fact that with a course like English in Nigeria, what are you going to do outside of it? So it becomes worrisome at a point because we don't have a system that encourages this. Even parents and people, even students, those of us who are studying this course, look down upon our course, our study, because we believe that it is not important in the environment. People say, oh, it's either you're a lawyer, you're a banker, an accountant, a doctor.
A carpenter in London earns good and is happy to tell you, oh, I'm a carpenter. Mm-hmm. He won't tell you, you know, I'm into woodwork designing, you know, I design furniture.
Coconut Heads, signé Alain Kassanda. Alors, nous sommes dans un ciné-club à l'université d'Ibadan, la plus ancienne du Nigeria. Le réalisateur Alain Kassanda montre comment cette salle de cinéma se transforme peu à peu en lieu de rassemblement et de discussion entre jeunes férus de liberté d'une société meilleure. Le film montre tout simplement la force du cinéma. Ici, nous sommes dans un ciné-club. Des étudiants peuvent voir des films qui parlent de ce que cela leur fait en tant que spectateurs, mais aussi en tant que citoyens. Chez Alain Kassanda, l'aspect citoyen est très important. Le premier enjeu du film est de montrer bien sûr les réalités du Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain et première puissance économique également du continent. Le film permet de donner la parole aux jeunes, à ces jeunes, véritables protagonistes de Coconut Head Generation. Il n'y a pas de voix extérieure qui va parler d'eux, ce sont eux-mêmes qui prennent la parole et qui s'expriment. Il y a réappropriation de la narration. Ici, on parle de la manière dont on peut construire ensemble une société. Ce film est, selon les propos d'Alain Kassanda, une construction entre lui en tant que cinéaste et Toby, le protagoniste, mais aussi cinéaste dont les images nourrissent le film. Ce qui est important dans sa démarche, c'est qu'il y a une notion d'égalité entre le filmeur et le filmé. Coconut Head Generation, donc de Alain Kassanda, à voir d'urgence. Et après avoir parlé cinéma avec Alain Kassanda pour Coconut Head Generation, je vous propose tout de suite de parler slam avec la jeune et très prometteuse Nusaïba Lehlou qui nous a régalé, qui nous a surpris avec son univers très éclectique à mi-chemin entre le rap, la musique, le slam et surtout la poésie. Elle voit cet art comme une introspection avant tout. Elle nous régale avec son actualité, notamment la grande soirée du slam francophone qui se déroulera dès le 27 mars prochain. On écoute tout de suite Nusaïba.
J'ai décidé en fait de changer ça. Je voulais pas que ce soit juste du slam pur et dur. Et du coup, je me suis dit, oui, bah, je vais peut-être chanter aussi. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et là, j'ai découvert aussi cet univers. Et puis, je me suis dit, ah, mais peut-être rapper un tout petit peu, mais pas vraiment. Parce que moi, de base, je ne suis pas très... comment on va dire? Le rap, j'aime beaucoup le rap. D'ailleurs, ça m'inspire énormément. J'écoute presque ça. Mais le faire, je trouve qu'il faut quand même une force incroyable que je n'ai pas du tout. Mais du coup, voilà, je pense que c'est surtout l'hésitation et le changement perpétuel, quoi.
Et c'est ça aussi la magie de ces métiers qui sont profondément humains et qui touchent les gens les plus sensibles autour de nous. Et voilà, il y a une nouveauté qui est à toi, Nusaïba, c'est Couscous Mind. Alors déjà, le titre nous intrigue beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler de ce dernier bébé?
Alors, Couscous Mind, j'avoue, c'était compliqué. Moi, en tout cas, tous mes amis m'ont dit presque tous « Non, 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 c'est très compliqué comme titre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On ne comprend absolument rien. » Mais c'est juste que, en fait, ce texte-là, déjà, c'était vraiment presque de l'écriture automatique. C'est qu'à un moment, j'ai réfléchi, je me suis juste mise à écrire, j'étais pas bien et c'est sorti comme ça. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, j'aborde énormément de sujets, de thématiques qui me touchent personnellement et qui certainement touchent plusieurs personnes. Mais c'était comme un couscous, en fait. C'est qu'il y avait énormément de choses. Je parle de doutes, des questionnements, du fait que j'allais pas bien, des problèmes, des gens, de mon entourage. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un vrai couscous, c'est qu'il y a tout.
Il y a un peu
comme
tout.
Un couscous. Et donc, en fait, ma tête, c'était, il y avait le couscous dans ma tête. Et donc, je me suis dit, c'est un couscous mind.
C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. D'ailleurs, en fin d'interview, on écoutera un extrait de Couscous Mind. Comme ça, voilà, nos auditeurs auront une idée. Et puis, il y a cette très belle actualité également, donc, organisée par les instituts français. Au Maroc, donc beaucoup d'improvisation, du slam, il y aura plein d'artistes venus un peu de partout, Sénégal, Québec, Maroc, il y aura également la Belgique, et oui. Voilà, et Nusaïba, tu seras de la partie, est-ce que tu peux nous parler de cet événement?
Alors, oui, ben on sera accompagné par Nicolas Peigné, qui est un pianiste extraordinaire. Et en fait, voilà, c'est un peu ce mélange de culture. On sera tous ensemble sur scène, enfin pas ensemble, mais voilà, chacun va accompagner Nicolas pendant une quinzaine de minutes à peu près. Et je pense que c'est aussi une occasion de justement présenter notre culture à nous et puis que les autres slameurs qui sont avec nous... qui présentent la leur aussi, leur art, parce que je pense que c'est le slam, on pratique le même art, mais je suis certaine que c'est pas du tout la même chose, qu'il y a certaines facettes, en tout cas il y a des facettes différentes, dépendamment de la culture, de la langue, etc. Et je suis très très contente et j'ai hâte d'être à Rabat pour commencer déjà cette petite aventure et de rencontrer les autres slameurs. Ça va être une très très belle synergie, énergie et... voilà, j'ai hâte.
Et pour les dates, comme ça, nos auditeurs eh bien, peuvent les avoir en tête, puisque c'est la semaine prochaine, c'est le 27 mars.
Exactement, au cinéma Renaissance, et puis le 29 mars à l'Institut français de Casablanca, et le 30 mars à l'Institut français de Marrakech.
Donc super, trois dates, trois villes au Maroc, si vous êtes de passage ou si vous habitez dans une des trois villes. Donc voilà, un super rendez-vous à ne pas rater. Et puis Nusaïba, un grand oui. Et tes projets à toi, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui est en train de mijoter peut-être?
Oui. Je travaille sur une nouvelle chanson du coup que je vais faire avec Abdous. Et donc ça va être dans the local session et qui va être super. Je suis très très contente de travailler avec Abdous. C'est un producteur avec qui je travaille depuis toujours et c'est vraiment le premier producteur qui m'a accompagnée, qui m'a portée et voilà, je suis très contente de faire ce projet avec lui et ça sera bientôt publié. Bientôt.
Eh bien, on attend ce nouveau bébé avec impatience. En tout cas, merci Nusaïba El Hallou d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir
invité. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir. Et juste pour le plaisir et avant d'entamer notre chronique littérature, je vous propose d'écouter un petit extrait du dernier né de Nusaïba El Hallou, Couscous Mind, c'est tout de suite.
Camarade, ne me dis pas que je suis triste. Aujourd'hui, je suis morte ou peut-être hier, je ne sais plus. Camarade, je fais l'effort, vois-tu ? Il faut de l'effort, mais pour la bêtise. Je parle gentiment, respecte vos formes de politesse. Mais j'en ai marre de toutes ces formes de petitesse. J'en ai marre d'accepter, d'acquiescer. Mais je suis lâche, camarade, vois-tu. Ne me regarde pas comme si... comme on regarde avec une pincée de regret, de pitié, de mépris. Comme la société regarde les gens lorsqu'elle veut faire semblant. Ne fais pas semblant. Je fais semblant toute ma vie. Je fais nier l'amour, l'amitié. J'ai remis ma démission plus tôt que prévu. Mais tout cela n'existe plus. Camarade, t'es qu'un abruti qui regarde le doigt et la lune et ne sait pas si le sage va se retenir. Va-t-il arrêter un jour de nous montrer la lune? Elle s'en fout la lune qu'on la regarde, si ça se trouve elle nous injurie. Si jamais je t'emmène, et tu aimes choubrit n'goul. Si jamais on enchaîne, hobay relik et fou. Si jamais je t'emmène, et tu aimes choubrit n'goul. Si jamais on enchaîne, spalay relik et trani. Thank you.
Couscous Mind, le dernier né de Nusaïba, Lehlo, qui donne peut-être un aperçu de son prochain projet qui devrait bientôt voir le jour. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, place à la sortie littéraire de la semaine et place donc à Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé le nouveau roman de Marc-Alexandre Obombé, qui est à la fois un hymne au jazz, mais également un roman familial sur la transmission entre un père et sa fille, une déclaration d'amour d'un père à sa fille. C'est l'histoire de Jaromil, un musicien de jazz qui reçoit un jour dans sa boîte aux lettres un paquet contenant un courrier, des cassettes audio d'un autre temps et un disque jazz et la photo d'un homme qui lui ressemble trait pour trait. D'ailleurs, dans le livre, il dit « J'ai découvert que mon père était encore en vie le jour même de sa mort. Ma mère m'avait toujours tout caché. » Alors Jaromil part en quête de cet homme qui n'a pas connu le grand-père de sa fille Indira, à qui il va écrire tous les jours pour lui raconter ce qu'il découvre. Marc-Alexandre Obombé écrit avec le rythme du jazz, dont certains morceaux emblématiques donnent d'ailleurs leur titre au chapitre du roman. Il raconte aussi une histoire familiale, il parle de ségrégation et de racisme. Il dit aussi l'espoir et la mort. Après les Lumières de Oujda, Marc-Alexandre Obombé nous offre une nouvelle facette de son immense talent. Poète, slameur, romancier, on l'écoute tout de suite.
Venu au mot par amour, à cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher, comme une mère je suis. Venu au mot par amour, depuis je parcours le monde, je vais par monts et par mots et je me hâte lentement de faire modestement ma part du colibri de Rabbi. Je me hâte lentement de transmettre modestement ma part de merveilleux de rébellion, de bienfaisance. Je suis venu au mot par amour. Depuis, j'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres tentes de l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chants.
Sommia lampi avanto din, sommia la voce.
Toi, aimer ces airs dont la négritude est un point fermé, mais peut-être aussi et surtout une main tendue à l'autre, une main tendue à l'autre, une main tendue à l'autre. Penser sans pouvoir agir depuis longtemps, voilà notre sort. On nous refuse le droit d'écrire.
Marc-Alexandre Obombé qui nous régale avec un de ses fameux lives où se mêlent slam et musique et poésie. Merci d'avoir été avec nous sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et n'oubliez pas que l'Afrique en culture s'est retrouvée toujours en avant-première sur Média Podcast.